France 24 présente. Radio Foot International, le Café des Sports, Annie Gasnier.
Bonjour à tous, bienvenue dans le Café des Sports hebdomadaire et merci d'être à ce rendez-vous derrière votre poste radio, vous le savez, mais aussi grâce à Internet en Facebook Live et puis sur France 24 désormais tous les vendredis soirs. Et ça nous apporte beaucoup de commentaires de pouvoir désormais être vu autant qu'écouté. Nos amis sont là et je vous, non pas les présente, mais les salue de votre part tout de suite. Bonjour Rémi.
Bonjour Annie.
Et Rémi Nbono, super aligné avec ses carreaux, son prince de Galles un peu marron.
Bien évidemment, c'était une façon de dire à Xavier Barré qui a toujours... un sale coq qui est bien habillé. Et puis voilà, alors voilà, il est venu en tenue de
deuil. Il nous fait un peu de gentleman farmer week-end aujourd'hui.
Bonjour Annie.
Bonjour Xavier. Voilà. Ben vous avez raison.
Vu le temps qui est vrai temps d'automne aujourd'hui, je me suis mis un peu...
D'automne voilà. Je vous êtes gentil.
D'automne, hein. D'hiver.
Ouais. Carrément d'hiver, oui.
Mais bon, Rémi Nbono intéresse surtout... tenir à carreau. Hein.
Je pense qu'il avait envoyé le message. Bonjour Alejandro Valente.
Bonjour Annie.
Merci d'être là et vous êtes attentif déjà à tous les messages que
Absolument.
Peuvent nous envoyer en direct les internautes et les auditeurs. Alors dans les thèmes des débats du jour, eh bien, nous commencerons avec un hommage. Un an déjà que Diego Maradona nous quittait, une année sans lui, mais l'idole argentine est encore très présente dans les esprits à travers le monde depuis hier, des hommages. Mais l'héritage de Diego Maradona n'est pas que de lumière. Il y a aussi la part d'ombre du personnage qui ne se voulait pas exemplaire d'ailleurs. Le football sud-américain aujourd'hui, c'est aussi River Plate, champion d'Argentine pour la 37e fois de son histoire. N'est-ce pas Alejandro Valente?
Ah oui, belle image.
Vous êtes content. Et puis la finale de la Copa Libertadores, 100% brésilienne, puisque Palmeiras se retrouve face à Flamengo des Carioca, qui ont remporté le trophée il y a tout juste 2 ans. Des clubs français décomplexés sur la scène européenne, 5 sur 6 sont déjà qualifiés pour le prochain tour, avec plus ou moins de facilité, mais on retient la belle performance de Monaco hier soir, l'émergence aussi sur la scène européenne du René Gaëtan Laborde. L'affiche du week-end à Londres sur la pelouse de Stamford Bridge où Chelsea attend les Red Devils. Que peut faire Michael Carrick, l'intérimaire, sur le banc de Man U? Et bien sûr, nous terminerons par nos cartons et les vôtres surtout, que nous attendons toujours impatiemment chaque semaine. Au générique de cette émission, il y a Pierre Guérin et Sarah Loubacouche qui m'ont aidé à préparer l'émission. Alice Ménard est à la réalisation, ainsi que Léo Bernard et Swell Kedir et nos amis de France 24. Le Café des Sports, les débats sont ouverts.
You know Maradona, then.
Yes, everybody know Maradona.
Tutti quanti conoscono Maradona.
Il nous manque par sa magie, par son charisme, ses provocations et ses frasques aussi. Diego Maradona disparaissait il y a tout juste un an. En fait, c'était le 25 novembre, mais on en avait beaucoup parlé les jours suivants. Et Diego Maradona, c'était ça avant tout. C'était une lumière éternelle dans le ciel des passionnés du football. Il y avait aussi sa part d'ombre qui déchaîne les intéressés plutôt que l'intérêt, et nous allons aussi en parler. Mais lui-même l'avait pressenti, n'est-ce pas, Alejandro Valente? Il avait eu une phrase un peu provocatrice à son image.
Oui, il disait souvent, même quand je serai mort, ils vont continuer à m'embêter en parlant.
Il disait même pas tout à fait m'embêter.
De tous ceux qui lui en voulaient. C'est vrai qu'il est mort le 25 novembre. Il y a un an exactement, il y avait ses obsèques qui étaient célébrées dans un climat complètement fou à la Maison Rose, le palais du gouvernement à Buenos Aires.
Et
on a mesuré ce jour-là l'émotion et l'amour que les gens portaient à Diego Maradona.
Et d'ailleurs, le footballeur hein, surdoué, lui, le monde du football lui a encore beaucoup rendu hommage. Et notamment, eh bien, c'était du côté de Naples. Naples qui a immédiatement donné son nom au stade sur lequel il avait brillé avec le maillot du Napoli pendant 7 ans. Ils ont dévoilé une statue à l'entrée du stade.
Absolument. Il y a une statue qui a été placée à l'entrée du stade. Je pense que c'était plutôt attendu et logique, vu l'énorme apport que Maradona a fait à Naples. On peut penser qu'avant son arrivée, c'était un club de deuxième ou troisième rang. Et avec Maradona, il a gagné ses premiers titres nationaux et internationaux. Il y a même une étoile qui porte désormais le nom de Maradona dans le vaste
la
ciel,
galaxie.
Dans la vaste galaxie, puisque la Conmebol a réussi à obtenir qu'une étoile porte donc le nom de Maradona, la Confédération sud-américaine de football. Mais on ne peut pas oublier que Maradona, et peut-être c'est ça qui explique l'émotion qu'il suscite, il est mort seul, il est mort triste, il est mort amer, un peu lâché, un peu abandonné de ceux qui devaient veiller sur lui, loin de sa famille, ayant souffert l'isolement du Covid, comme tant d'autres personnes qui en ont souffert également. Et donc, je pense que c'est ça aussi que le peuple, les gens qui aiment Maradona, ont voulu marquer en lui rendant hommage de cette façon il y a un an et aujourd'hui encore.
Rémi, ça vous surprend qu'un an après, on pense à Naples, parce qu'à Naples, il y a ses chapelles, ses dessins un peu partout, mais aussi sur l'antenne des RFI, on pouvait entendre un reportage du correspondant de RFI à Buenos Aires ou dans la Villa Fiorito, là où il est né. On vient maintenant, des touristes viennent un peu plus qu'avant, comme en pèlerinage, vers sa maison d'enfance. Ça vous surprend?
Ça ne me surprend pas lorsqu'on écrit de l'histoire. L'histoire, c'est surtout pour la postérité. Si on est là pour le présent, c'est pour qu'on laisse de belles pages qui peuvent être répétées par les générations futures. Même si Maradona n'a pas été un personnage parfait, mais footballistiquement, il a été complètement parfait. Ce n'est pas seulement au niveau de l'Europe ou au niveau de l'Argentine ou des clubs qu'il a eu à fréquenter, qu'il a eu à jouer, qu'on rend hommage. Parce que nous, par exemple, je vais prendre le cas de l'Afrique, c'est-à-dire que la Coupe du Monde de 1990, c'est un événement qui est resté dans toute l'Afrique parce que le Cameroun affronte en match d'ouverture Maradona, et qui est champion du monde. Donc d'ailleurs, quand j'en parle avec ceux qui étaient de cette épopée-là, certains qui sont vivants, ils disent que Maradona, lui, il était encore même seulement dans la salle de massage. Et quand ils l'ont vu, ils ont dit qu'ils sont morts.
Donc,
pour l'arrêter, ça a été très compliqué. Mais néanmoins, Maradona a retrouvé une équipe du Cameroun qui a fait la fierté de toute l'Afrique avec des défenseurs qu'on ne connaissait pas.
Au dépend de Maradona.
Lendi Pakem, comme le Tato Stephen, qui malheureusement était aussi capitaine ce jour-là et qui aussi décédé. Et bien sûr, il y avait un Massing qui pratiquement était prêt à perdre des crampons, mais ne lâchait pas Maradona. Puis voilà. Donc, tout ça fait aujourd'hui que Maradona, plus que n'importe quel joueur, est beaucoup présent en Afrique parce que rien que sa façon de faire, son dribble, sa dextérité et surtout sa façon d'être intouchable, c'était une véritable personnalité d'une autre envergure. Et malheureusement, contrairement à ce que les autres disent, on peut critiquer tous ses comportements et tout et tout. Hein? Oui. La bougie donne de la lumière, mais en bas, il y a l'obscurité.
Notre correspondant à Milan, Matteo Cioffi, a rencontré Javier Zanetti hier, il me semble. Et c'était argentin, hein, ancien capitaine de l'Inter, joueur immortalisé, disons, à l'Inter Milan, et qui a grandi les yeux rivés sur son idole. C'est donc ce qu'il a dit à Matteo Cioffi.
Diego m'a transmis cette passion du football. J'ai passé mon enfance à l'admirer en le regardant jouer à la télévision. C'était un plaisir total. Il a réussi à donner un bonheur immense à un peuple entier, et aussi à tous les Argentins, surtout en 1986. Il menait alors la sélection et il a été le héros de la conquête du titre mondial. Je garde de lui et à jamais le souvenir de quelqu'un de très humble, toujours ouvert au dialogue. Lorsqu'on avait besoin d'un conseil, il nous écoutait attentivement. Il pouvait aussi nous aider sans hésiter. Il savait ouvrir son cœur à tout le monde.
Il calcio con lui si apriva totalmente.
C'est encore l'image qu'on garde de Maradona, c'est le joueur, le vainqueur de la Coupe du Monde de 86, celui qui a fait rêver balle au pied, Xavier.
Mais c'est pour ça qu'il a cette popularité, c'est parce qu'on a rappelé son histoire. Alors effectivement, il y a eu des dérives.
On le voit derrière jongler avec une balle de golf.
Il a jonglé avec à peu près tout, une orange. En fait, il était absolument une technique absolument exceptionnelle, une vision du jeu remarquable, hors norme. Et surtout, donc, il incarnait, Rémy Ngono l'a très bien expliqué, il incarnait l'espoir pour tous ces gamins des bidonvilles, des quartiers défavorisés, parce qu'il a réussi à devenir le meilleur joueur du monde, alors qu'il venait d'un endroit vraiment, effectivement, Villa Fiorito, qui était totalement à l'abandon. Voilà.
La misère.
Donc, il a réussi aussi à sortir sa nombreuse famille de la misère aussi. Donc, c'est le conte de fées. Le conte de fées avec quand même quelques dérives et ce que disait très bien le préfet, le fait qu'il meure seul, finalement un peu abandonné de ceux qui ne trouvaient plus d'intérêt à le fréquenter. Mais bon, après, comme joueur de football, c'est vrai que c'était un génie, quelqu'un d'absolument extraordinaire.
Alejandro, quand même un peu la part d'ombre, c'est aujourd'hui, on se pose des questions sur, justement, il est mort seul, un peu dans quelles circonstances, et y a-t-il un coupable? C'est ce que cherche la justice en Argentine. Voilà. Et puis, on se bat pour un héritage où il y a surtout des dettes.
Oui, il y a évidemment plusieurs personnes qui sont inculpées, ceux qui devaient veiller sur lui. On a compris qu'il y avait des personnes qui avaient intérêt à le garder isolé de sa famille, une famille qui était divisée d'ailleurs parce qu'il était en conflit avec son ex-femme et ses filles. On a compris qu'il était parfois induit à boire de l'alcool ou afin de rester un peu dans un état de somnolence, un peu abattu. Déjà, il était déprimé, donc tout ça n'a pas contribué. Ouais. La justice va peut-être décider s'il y a eu ou non des fautes imputables. Et puis, il y a effectivement le problème de l'héritage, les problèmes des dettes, les problèmes des enfants reconnus ou non reconnus. Donc, tout ça ne simplifie pas les choses. C'était prévisible avec quelqu'un comme Maradona, qui d'ailleurs n'a jamais revendiqué le fait de devoir être un exemple ou un modèle. Hein, c'est quelqu'un qui...
Mais ce qui est quand même terrible, c'est qu'il y a une dame qui apparaît, elle a 37 ans, et puis... Bon, et puis on vient accuser Maradona, c'est-à-dire qu'il faudrait maintenant qu'on fasse un procès sur le viol de quelqu'un qui est mort depuis, et puis on n'a pas dit ça de son vivant. Parce que quand même, quand on est déjà mort, je crois quand même qu'il faut un peu de la dignité aussi humaine. On peut se plaindre de Maradona quand il est vivant, mais vraiment, quand on lui fait trop de procès actuellement, alors qu'il ne peut plus se défendre, eh bien, je vois quand même qu'il y a de la lâcheté dedans, parce qu'il y a aussi des gens qui veulent vraiment venir profiter de pas mal de choses.
Ce qui est très différent des procès en paternité, effectivement. Diego Maradona, j'imagine qu'on en reparlera dans Radio Foot International à un moment ou à un autre, mais... Te amamos a pesar de todo. On continue. Et on continue toujours en Argentine, parce que l'enfant de Boca Junior, de là-haut, peut-être, qui sait, a dû assister Alejandro Valente à la victoire hier des frères ennemis un peu de son club de Boca Juniors, à savoir le club de River Plate. River Plate, sacré champion d'Argentine dans la nuit, sur le score de 4-0. Et c'était face au Racing Club dans le Stadio Monumental de Buenos Aires.
Gol del River, campeón. Sí, sí, sí. Si vas a salir campeón del fútbol argentino, señoras y señores.
Alors donc, on a mis qu'un seul des quatre buts, Alejandro, parce qu'on s'est dit, un but qui dure 20 secondes, ça peut prendre beaucoup de temps dans l'émission. Une victoire devant 72 000 personnes en plus, à trois journées de la fin du championnat, avec un club qui a collectionné les victoires, et c'est son 37e titre de champion d'Argentine. Il fait partie des grands clubs d'Argentine,
ah oui,
de toute façon.
Oui, bien sûr, c'est le plus grand club d'Argentine avec Boca Juniors. Donc, évidemment, c'est qui marque, parce que bon, ce sont des joueurs qu'on ne connaît pas très bien.
On les connaît quand ils arrivent en Europe, souvent.
Voilà. Marcelo Gallardo, quand même, on le connaît. C'est un entraîneur qui, depuis 7 ans, a remporté son 13e titre. Il avait...
Ancien de la sélection, ancien du PSG,
absolument,
ancien de Monaco.
Et ancien de River aussi. Donc, il avait remporté beaucoup de trophées internationaux, notamment deux Coupes Libertadores, donc l'équivalent de la Ligue des Champions. Mais il n'avait pas encore remporté les championnats dans ces 7 années passées au club. C'est chose faite depuis hier soir. Et voilà, et probablement, il va quitter le club pour vivre des nouvelles aventures parce que c'est devenu un entraîneur très, très remarqué. D'ailleurs, Pep Guardiola, aujourd'hui, en conférence de presse, lui a rendu hommage à marge de la journée des championnats en Angleterre. Donc, c'est quelqu'un qui a marqué quand même ces dernières années.
Xavier, ça peut être un tremplin pour lui aussi. On parle de Julian Alvarez, qui est le buteur de cette équipe. Ça peut servir de tremplin, mais ce n'est pas facile. On se souvient de Tata Martino, par exemple, l'entraîneur argentin et sélectionneur même, qui était venu à un moment à Barcelone, un petit tour et puis s'en va. C'est compliqué quand même.
Ah, mais c'est sûr qu'il ne faut pas se tromper dans le choix du club où il va vivre cette première expérience européenne si l'opportunité se présente. Mais on voit qu'il y a quand même des entraîneurs argentins qui ont plutôt bien réussi en Europe ces derniers temps. Il y a dans des styles différents. El Cholo Simeone à l'Atlético. Bien sûr, Pochettino à Tottenham, à Southampton, à Tottenham et maintenant au Paris Saint-Germain, même si c'est un peu plus compliqué pour lui. On pense aussi, bien sûr, à Marcelo Bielsa. Donc, c'est pas Sampaoli. Donc, ce serait pas un premier à faire cette aventure.
Mais Sampaoli,
il avait
du mal. Il était passé par Séville et puis après...
Oui, mais il était reparti pour prendre la sélection argentine. Donc, il avait une bonne excuse. C'est vrai que la Gachardo, comme vous dites, en Argentine, il a quand même une expérience de joueur en France, notamment. Oui. Donc, il se connaît les contraintes du football européen qui sont quand même un peu différentes de celles d'Amérique du Sud. Maintenant, effectivement, il faut pas qu'il se trompe là où il va aller pour épouser un projet qui conviendra à sa philosophie.
On le compare souvent à Carlos Bianchi parce que c'est vrai que Carlos Bianchi avait connu une grande réussite en Argentine en tant qu'entraîneur et après il avait connu quelques difficultés quand il était venu en Europe à la Roma, à l'Atlético Madrid. Donc Carlos lui-même, il disait voilà, mon erreur, c'est d'être arrivé peut-être de manière trop profil bas, sans vouloir demander les recrutements qui étaient nécessaires, etc., en espérant qu'avec sa maîtrise, il allait pouvoir gérer ça. Et donc, Gallardo doit effectivement tirer les leçons de ces difficultés.
Ouais. C'était donc le titre de cette équipe argentine, donc sacrée championne de l'Argentine. Mais il y a aussi et encore du football en Amérique du Sud, et vous le regarderez peut-être la nuit prochaine, enfin la soirée prochaine, Rémi. C'est la finale de la Copa Libertadores, alors équivalent un peu de notre Ligue des Champions, disputée dans le stade Centenario de Montevideo, avec des supporters qui sont déjà arrivés du côté de Montevideo. Des supporters, alors on a deux clubs brésiliens face à face, on a Palmeiras contre Flamengo, et on se souvient que Flamengo, alors dans les joueurs de São Paulo contre les joueurs de Rio, mais Flamengo avait déjà remporté ce titre il y a 2 ans contre River Plate.
Oui, mais c'est pas un théorème, parce qu'il faut aussi dire que Palmeiras n'est pas un très mauvais club, même s'il y avait une quelconque
malédiction. Ils sont tenants du titre, actuellement.
Oui, ils sont tenants du titre en 2020, justement, face à un autre club toujours brésilien. Donc, déjà, il faut savoir que cette équipe, quand on ne s'attend pas, elle donne beaucoup de choses. Mais quand on s'attend, elle ne donne pas grand-chose, parce que d'ailleurs, jusqu'en 99, elle ne parvenait pas. On parlait même de la malédiction, donc pendant 37 ans. Mais finalement, on se rend quand même compte que, certes, en 2001, ça n'a pas beaucoup marché, mais quand on a vu ce qu'ils ont fait en 2020, c'était conséquent, c'était concret. Et quand on voit d'ailleurs le football qu'ils sont en train de pratiquer actuellement, moi, je peux même dire que je peux voir qu'ils sont favoris par rapport à cette compétition, même si...
Dans les doubles confrontations en championnat du Brésil, à chaque fois, c'est Flamengo qui l'a emporté.
Oui, Palmeiras ne va pas très bien en ce moment, alors que Flamengo espérait encore pouvoir rattraper l'Atlético Mineiro pour être champion.
Palmeiras a remporté la Coupe, justement, la Copa Libertadores, rien que quand ils ne se portaient pas très, très bien en championnat. Mais quand ils sont devant, ce n'était pas exactement ça. C'est pour ça que je veux te dire que moi, je suis en train de regarder la courbe. C'est comme exactement... D'ailleurs, c'est peut-être une façon de faire marche arrière. Quand vous regardez, par exemple, ce qui se passe en Argentine aujourd'hui, on était en train de parler de Gallardo qui se porte très, très bien. Mais curieusement, au moment où il remportait la Copa Libertadores, il était incapable de remporter le championnat. Donc, il ne faut pas exactement regarder ça. Maintenant qu'il a remporté le championnat, il n'est pas là à la Copa Libertadores. Donc
ouais, ils ont été éliminés avant. Mais si on reste sur la finale et donc cette double confrontation, donc il y a ses antécédents dans le Brasileiro, le championnat brésilien, où à chaque fois, Flamengo s'est imposé. Ils sont imposés notamment au Parque Antarctica à Sao Paulo contre Palmeiras, 3-1 quand même. Ils avaient gagné le match aller aussi à Rio 2-0, je crois. Et cette équipe de Flamengo en championnat, elle est devant Palmeiras. Donc cette année, tout porte à croire que Flamengo est favori pour la finale. C'est pour ça que je ne comprends pas le parti pris de Rémy Gonod, mais ce n'est pas la première fois qu'on n'est pas d'accord.
Ah, mais attends, si tu raisonnes ainsi... qui est le champion en titre de la Ligue des Champions c'est Chelsea, n'est-ce pas? Non, est-ce que Chelsea avait remporté la coupe, justement, le championnat en Première Ligue? Non, il ne faut pas regarder comme ça, monsieur.
Sur une finale.
Si vous regardez ça, L'Oréal Madrid a aligné 3 Ligues des Champions. Mais ce n'était pas 3 Ligues.
Sur une finale,
c'est peut-être le savoir-faire aussi de cette équipe de Flamengo, avec un buteur qui est en sélection du Brésil actuellement, qui s'appelle Gabigol, et puis un entraîneur aussi qui est assez expérimenté, Renato Gaúcho.
Oui. Mais qui vient d'arriver, enfin qui est arrivé il y a quelques mois.
Oui. Bon.
C'est un côté un playboy un peu...
Ouais.
Qui a réussi beaucoup de choses avec le Grêmio. Et si je ne me trompe pas, ils ont gagné la Coupe Libertadores avec lui.
Mais d'un autre côté, en face, il y a un jeune entraîneur portugais qui s'appelle Abel Ferreira, qui a déjà gagné l'année dernière, qui fait... Il y a moins de stars dans cette équipe. Côté Flamengo, on a David Luiz, Philippe Luiz, enfin des joueurs qu'on connaît un petit peu en Europe, à Palmeiras, c'est moins le cas, mais c'est une équipe qui joue collectif et je pense que Rémy n'a pas tort de mettre en avant cet aspect-là.
En tout cas, ce qui serait assez extraordinaire, c'est que pour la troisième année d'affilée, si c'est Palmeiras qui gagne, ce serait un entraîneur portugais qui serait champion d'Amérique du Sud.
Exactement.
Puisque lorsque Flamengo a gagné, c'est Jorge Jesus qui était sur le banc, qui est maintenant retourné au Portugal, mais qui à l'époque avait entraîné Benfica et le Sporting, et qui arrive au Flamengo et qui transforme
un peu l'équipe, voilà, effectivement.
Et au terme d'une finale incroyable, hein, puisque River Plate menait. Et c'était la première finale sur un match, c'était à Lima, si je me souviens bien, au Pérou.
Égalisation.
Et ils égalisent et ils vont chercher la victoire grâce
à gagner.
Ah, oui, c'était une finale absolument exceptionnelle.
En tout cas, ce sera demain, coup d'envoi à 21h, heure de Paris, 20h en temps universel. Si vous aimez ou si vous avez envie de découvrir le football sud-américain, eh bien, ce sera du côté de Montevideo, où sont arrivés d'ailleurs les supporters en chantant, en criant dans les avions. Enfin, il y a déjà l'ambiance du côté de Montevideo. On continue et nous, eh bien, du coup, on revient en Europe.
Neymar, Messi, Mbappé, le voilà, la frappe et le but parisien, l'ouverture du score pour le PSG.
Vainqueur 2-1 d'une Real Sociedad, actuel deuxième du championnat d'Espagne, Monaco en tête de son groupe.
Et le but lillois, l'ouverture du score pour Jonathan David. Ça fait 1-0 pour Lille.
Une belle semaine européenne pour les clubs français et je dirais encore une, à tel point que le record de points à l'indice UEFA, vous savez, ceux qui sont crédités aux équipes et aux clubs français lorsqu'ils gagnent, eh bien ce record pourrait être battu cette saison. Et ce qu'on peut dire, c'est que ça nous change un peu des saisons passées. Vous vous en souvenez quand on se lamentait des résultats des clubs européens un peu en Ligue des Champions, mais surtout en Ligue Europa. Alors, les équipes françaises, nous, à Radio Foot, on leur a mis mention bien aujourd'hui en préparant l'émission parce que 5 sur 6, comme note, c'est 5 équipes déjà qualifiées pour le prochain tour, sauf l'OM. Marseille est sorti, en tout cas, de la Ligue Europa. Peut-être qu'ils se rattraperont en Ligue Conférence, ça sera la semaine prochaine, s'ils arrivent à l'emporter au Vélodrome contre le Lokomotiv Moscou. Le PSG et Lille, on en a déjà beaucoup parlé cette semaine, mais en Ligue des Champions, ils sont plutôt le PSG qualifié, Lille bien parti. Hier soir, c'était Lyon, Monaco et Rennes qui se sont distingués. Xavier Barret, est-ce que vous aussi, vous mettez une bonne note d'ensemble au club français?
Complètement. Et je confirme ce que je disais là sur ce plateau À la différence de Rémy Ngono qui disait que les résultats lors de la première journée où aucun club français n'avait perdu, même si certains avaient été dans la difficulté, on pense à Lille notamment, Rémy Ngono disait « ça veut rien dire », eh bien si, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'après 5 journées dans ces différentes coupes européennes, tous les clubs français sont en position de se qualifier, sauf l'OM, et vous l'avez dit, Annie, et pas complètement éliminé puisqu'il peut être reversé en Ligue Europa Conférence. Ouais. Donc, on peut avoir un 6 sur 6 au printemps, ce qui n'est plus arrivé depuis la nuit des temps. Donc, c'est un grand bravo pour le football français. On n'a pas toujours eu des grands matchs, c'est vrai. Le LOSC est un peu laborieux, le PSG a été médiocre à Manchester, mais ils sont encore en lice, ils peuvent faire mieux, on espère d'ailleurs qu'ils feront mieux. Mais pour le moment, les clubs français répondent présents dans des compétitions qu'ils ont souvent négligées ces dernières saisons.
Ce type, je ne sais pas. Il parle de la nuit des temps, il est plongé dans la nuit. Ce monsieur est plongé dans la nuit. Il oublie.
On peut passer la bande au mois de septembre.
Monsieur, vous parlez de la nuit des temps. Moi, je te pense tout simplement, je ne vais pas loin. En 2017, je te dis, le Monaco que tu es en train de vanter là, ce Monaco-là bat le premier de la première ligue. Ce Monaco-là, tu connais bien que mal c'était les équipes de Pep Guardiola. Alors, tu viens me dire aujourd'hui, quand la France envoyait des équipes justement jusqu'au niveau de la division.
Ce qu'on dit, c'est que
non, et il m'a parlé de la nuit des temps.
Je rajoute quelque chose, Rémi. C'est, on parle beaucoup de la Ligue Europa, parce que la Ligue des Champions, on sait que les clubs, d'une certaine façon, essayent de s'imposer. Mais c'était la Ligue Europa où les clubs ramassaient à chaque fois des défaites et finalement disparaissaient avant le deuxième tour, pratiquement.
Ils voulaient même pas la jouer.
Parce que des fois, c'était trop loin et tout ce qu'on sait.
Il ne voulait pas la jouer, tout comme aujourd'hui.
Donc, ça a changé.
Ça a changé, tout comme aussi, également aussi, on peut changer avec la Ligue Europa Conférence, parce que justement, voilà.
Oui, alors, ça, c'est nouveau.
Voilà Marseille qui y va, c'est-à-dire qu'on
n'est pas sûr.
On n'est même pas sûr. C'est le seul club français ayant une étoile qui est en train d'aller là-bas. Donc, aujourd'hui, pour l'instant, parce que justement aussi, je vois d'autres petits pays se qualifier. Si c'est à partir de ça que tu vas me dire que c'est depuis la nuit des temps, j'ai dit non, parce que justement, Marseille, je te le disais la semaine dernière, comme tu voulais qu'on repasse la bande. Te disais la nuit et que justement, Marseille, il y a 3 ans, était en finale de la Ligue Europa.
On parle des choses positives. Est-ce que vous y voyez du positif ou pas?
La situation, elle était telle qu'on se raccrochait à une campagne, une épopée européenne de temps en temps. Effectivement,
je vais vous dire une chose. Je vois des choses passables. Parce que nous oublions une chose. Nous sortons d'une défaite, d'une cuisante défaite, d'une démonstration de faiblesse du Paris Saint-Germain face à Manchester City. Donc, la Ligue des Champions est le championnat phare. Et maintenant, nous nous contentons de la Ligue Europa. C'est pour ça que je ne peux pas danser le tam-tam comme Xavier Barré.
Je viens de vous expliquer qu'on a beaucoup parlé du PSG et de la Ligue des Champions au milieu de la semaine et que là, on se concentrait plutôt sur la Ligue Europa et on trouvait qu'hier, eh bien, les victoires des clubs français et match nul. Alors, on va écouter. On va parler de Monaco. Monaco, l'heureuse surprise de la soirée, puisque l'équipe qui peine plutôt en championnat, elle n'est qu'à la 8e place, a battu le 2e de la Liga, c'est-à-dire la Real Sociedad, et il se retrouve premier de son groupe, Niko Kovac, et donc un entraîneur plutôt content.
Au début de cette aventure, j'ai dit que c'était un groupe digne de la Ligue des Champions. Ce soir, je suis heureux et fier de mon équipe, car on termine premier de notre groupe.
We have played 5 games. We won 3.
Sur 5 matchs, on en gagne 3 et on fait 2 nuls. Donc, je suis très heureux de notre performance. On va pouvoir se reposer sur le dernier match et se concentrer uniquement sur la Ligue 1 et la Coupe de France.
Totally on Ligue 1 and also on Coupe de France.
Est-ce que, Rémi, ce résultat peut donner un peu des ailes à Monaco et de l'air surtout? Parce que finalement, hier, ils l'ont emporté contre la Real Sociedad. C'était pas simple. Et finalement, c'est une équipe un peu... L'année dernière, elle nous avait heureusement surpris. Là, elle nous surprend moins. Est-ce qu'elle va se récupérer, selon vous, et notamment au championnat?
Je crois que Monaco n'est pas à sa place. Parce que quand je vois d'ailleurs la qualité de son effectif... Et je crois que ça va aussi relancer parce que quand vous regardez, que ce soit même les Ben Yedder qui sont déjà assez expérimentés, et bon, Et bien évidemment, vous voyez le contenu du match. C'est quand même une équipe d'Espagne qui n'a pas perdu depuis 3 mois et demi. Donc, battre la Real Sociedad, bien évidemment, qui avait le ballon, de cette façon, c'était beaucoup plus consistant. Donc, pour moi, Monaco est en train de revenir un peu à son meilleur niveau, tout comme justement l'équipe que moi je trouve très très bien, c'est-à-dire que c'est l'équipe de Rennes, par exemple, et qui, pendant au moins 12 matchs d'affilée, n'a pas eu à perdre. Ça, je trouve cette équipe très consistante, très positive. Ah bah. Et pour moi, et c'est ça que je disais depuis la semaine dernière, que c'est des petites équipes comme Rennes, ou encore même Lille, je suis à fond derrière. Alors, parce
Rennes avait bien joué la Ligue Europa ces derniers temps,
justement,
on s'en souvient.
C'est des équipes qui sont très positives et que j'apprécie. Mais Monaco devrait faire des efforts, parce que d'ailleurs, quand Monaco nous a surpris, c'était avec parfois une équipe qui avait moins de stars, même si Kylian Mbappé était quand même eu à apparaître, mais quand même, ça fait très longtemps, mais on avait une équipe qu'on avait eu à découvrir, la beauté du jeu, et je crois que ce que j'ai vu hier par rapport à Monaco, c'est impressionnant.
Rennes qui trace sa route dans cette nouvelle compétition européenne, c'est les hommes de Bruno Genesio qui sont eux aussi premiers de leur groupe. Alors, notamment grâce à un joueur qui hier leur a permis d'éviter de perdre et qui leur a offert le match nul grâce à un triplé. Il est reparti avec le ballon, c'est Gaëtan Laborde.
C'est super jouissif, voilà, c'est pour un joueur marquer un triplé en professionnel, en plus en Coupe d'Europe, qui aide l'équipe à se qualifier, c'est top. Après, voilà, on va aussi... aussi retenir ce côté négatif d'avoir pris 3 buts. Voilà, c'est dommage. On aurait pu continuer notre série de victoires. Maintenant, voilà, c'est une petite alerte aussi pour nous. Et puis, à se mettre vite dedans pour le match de dimanche.
Alejandro Valente, une belle première que son triplé sur la scène européenne, on dirait, parce que l'ex-Montpelliérain, il a 27 ans. Alors, on le connaît bien dans la Ligue 1 et dans le championnat de France. Mais c'est vrai que là, c'est un peu une chance pour lui, cette compétition européenne.
Absolument.
Même Europa.
Je pense que Laborde fait partie de ces joueurs qu'on remarque souvent en Ligue 1, qu'on apprécie et dont on s'est dit qu'ils pourraient aller beaucoup plus loin qu'ils ne le font. Probablement à Montpellier, il avait fait les tours de la question. Là, il arrive à Rennes, qui est une équipe... Qui déjà dans le passé nous a habitués à des belles performances, notamment dans les compétitions européennes. Il a franchi un palier et je pense qu'il pourra en franchir d'autres s'il continue sur cette lancée.
Ouais, c'est un garçon qui est né à Mont-de-Marsan, au pays du rugby. Ouais. Il était formé au Girondins de Bordeaux, où on ne lui a pas vraiment donné sa chance. Du coup, effectivement, il a eu l'opportunité d'aller à Montpellier, où il a constitué un duo extrêmement compétitif avec Andy Delors. Et puis là, Montpellier devait vendre des joueurs à cause du déficit. Et Rennes est le deuxième club après le PSG qui a fait le plus gros investissement cet été. Et il fait partie de ces recrues que le stade rennais a voulu mettre en avant. Et il répond pleinement à cette attente. Il a un peu de bouteille, un peu d'expérience. Vous l'avez dit, 27 ans maintenant. Un état d'esprit exemplaire. Et ça, forcément, ça plaît et le résultat, il est là sur le terrain avec ce triplé pour ses débuts européens. En fait, c'est sa première campagne européenne.
Rennes, une équipe qui plaît à Rémi Ngono. Vous aurez tous noté.
Ah non, ce n'est pas seulement que c'est une équipe qui plaît. Mais... elle plaît même aux Africains. Vous savez, même les Laurent Pokou sont passés par là.
Oui,
c'est-à-dire
oui,
que
quand
vous
regardez
Chimonda et consorts,
ils ont eu le poil à gratter du Paris Saint-Germain en championnat de France.
Justement, il avait d'ailleurs marqué à Rennes, je crois, 52 buts en 72 matchs.
Il y a un lieu qui porte son nom d'ailleurs du côté du stade rennais. Alejandro Valente, avant qu'on aille vers l'Angleterre pour parler de l'affiche du week-end, arrêtons-nous quelques instants. Il y avait en même temps que l'émission le tirage au sort des barrages européens à l'UEFA pour savoir qui aura la chance peut-être ou pas d'être au Qatar en 2022. Et le sort a été cruel.
Oui, voilà, il y a 12 équipes, dont 3 seulement iront à la Coupe du Monde. Alors, on sait qu'il n'y aura pas l'Italie et le Portugal qui iront ensemble, puisque si les deux équipes franchissent les demi-finales, elles devront s'affronter dans une finale où l'une des deux équipes restera sur le carreau. Donc, c'est évidemment une mauvaise nouvelle pour les supporters de ces deux grandes équipes qu'on attendait à la Coupe du Monde.
Ou ça sera où, sans les champions d'Europe ou sans Cristiano Ronaldo et tous les autres, Bernardo Silva, ouais. Bruno Fernandes.
Oui, peut-être
et
Cristiano ratera sa dernière occasion de jouer une Coupe du Monde. Terrible. Après, il y a un autre duel qui s'annonce assez assez passionnant, puisqu'on a un groupe de 4 équipes, dont une seule ira à la Coupe du Monde. Il y a la Russie et la Pologne d'un côté, la Suède et la République tchèque de l'autre. Donc, potentiellement, on aurait un duel Ibrahimovic-Lewandowski, dont l'un des deux restera à la maison pendant la Coupe du Monde. Et puis, un groupe, un carré beaucoup plus simple, beaucoup plus accessible, puisque l'Écosse, l'Ukraine, le Pays de Galles et l'Autriche, une de ces équipes ira à la Coupe du Monde en revanche.
Ouais, sacré tirage. Hein.
On a changé la manière de procéder, mais finalement, ça ne sert pas les équipes traditionnelles, on dirait, Xavier.
C'est-à-dire que, après, c'est la vérité du terrain. Et on se réjouit d'ailleurs, en tant que Français, que les Bleus n'aient pas eu à disputer ces barrages. Parce que quand vous voyez qu'il y aura forcément...
Et la complexité de la formule, finalement.
Oui, mais après, il faut reconnaître que ces équipes ont manqué le plus facile, puisque le Portugal et l'Italie auraient pu se qualifier directement et ils ne l'ont pas fait.
Oui, bien sûr.
Si l'Italie avait battu... si Jorginho avait marqué un seul des deux pénaltys qu'il a eu contre la Suisse, et il en a raté deux, l'aller et un retour, l'Italie serait pas là. Et si le Portugal avait tenu une minute ou deux de plus lors du dernier match contre la Serbie, il serait déjà qualifié aussi. Donc c'est la vérité du terrain. Et maintenant, le hasard du sort les met face à face. Il y avait plusieurs possibilités. Alors déjà, il faudra que le Portugal élimine la Turquie et que l'Italie élimine la Macédoine du Nord. Ça, il y a plus de chances. Et ensuite, on aura cette finale fratricide. Et une seule des deux équipes ira au Qatar. C'est effectivement un tirage terrible pour les Italiens comme pour les Portugais.
Ça serait cruel pour Cristiano Ronaldo, Rémi ?
Ça serait cruel en même temps aussi. Comme il dit que c'est la vérité du terrain, ce n'est pas la vérité du terrain. Parce que si le but de Cristiano Ronaldo avait été validé contre la Serbie, on n'en serait pas là. Donc, ce n'est pas la vérité du terrain. Quand c'est en Afrique, on nous dit « reprenez le match ». C'est-à-dire que le match Afrique du Sud contre le Sénégal, on dit « non, on reprend ». Parce que l'arbitre, il a fait ceci et cela. Mais quand c'est aussi flagrant comme ce qu'on a vu là, on dit non, c'est normal, c'est une erreur de l'arbitre. Bon, et puis c'est terminé. Et cet arbitre risque même d'aller à la Coupe du Monde. Voilà.
On verra ça dans les autres...
D'où l'utilité de l'assistance vidéo.
Oui, alors les matchs auront lieu au mois de mars, donc on a le temps d'en parler. Et les Italiens ont le temps d'avoir peur, les Portugais aussi. On fait un petit crochet par l'Angleterre. Belle affiche en Angleterre pour le week-end. Et c'est celle qui, sur la pelouse de Stamford Bridge, c'est dans le nord de Londres, eh bien, opposera Chelsea et Manchester United. Alors, une équipe de Chelsea qu'on peut croire un peu sur un nuage, puisqu'elle aligne les bons résultats. Elle a un petit peu creusé l'écart en tête de la Premier League. Elle a 3 points d'avance sur Manchester City. Et surtout, en Ligue des Champions, elle vient d'infliger un sévère 4-0 à la Juventus de Turin dans ce même stade de Stamford Bridge. Les Blues ne croient cependant pas que ça sera très facile face à Manchester United et c'est d'ailleurs ce qu'a dit leur entraîneur Thomas Tuchel.
I will never write anybody off, not in this league and not in this game.
On ne peut pas disqualifier une équipe comme Manchester United comme ça, surtout pas en Première Ligue. Déjà, c'est un très grand club, c'est un groupe très expérimenté, c'est toujours le cas, avec des individualités de très haut niveau.
So, this is still the case, and part of the performance.
Pour nous, la performance, ce sera aussi de ne pas les laisser jouer à leur niveau. On le voit, dès qu'on les laisse faire, en quelques secondes, tout leur potentiel s'exprime. Et c'est un potentiel du plus haut niveau.
Alors, vous l'avez noté, Thomas Tuchel parle de potentiel. Mais Rémi, Manchester United est 12 points derrière les Blues. Surtout l'entraîneur Ole Gunnar Solskjaer vient d'être viré et donc Michael Carrick, ancien du club aussi, va diriger son premier match avec les Red Devils. Qu'est-ce qu'il peut faire de plus ? Ils sont bons en Ligue des Champions, un peu comme d'autres sont bons sur la scène européenne, mais là, dans le championnat.
Je crois qu'il a déjà fait plus que justement Ole que... Xavier Barré a passé le temps à dire « Olé, voilà le meilleur et tout et tout », qui quand même part, après 3 ans, 0 trophée. et surtout la catastrophe qu'on peut voir. C'est-à-dire que j'ai toujours dit, vous pouvez vous moquer de Mourinho n'importe comment, mais au moins reconnaissez qu'une équipe se bâtit d'abord par la défense. Regardez aujourd'hui, Manchester United est parmi les trois dernières défenses de la Première Ligue avec 21 buts encaissés. C'est lamentable. Lorsqu'on sait, par exemple...
En plus, ils n'ont pas Varane.
Ils n'ont pas Varane. Donc, quand on essaie de regarder ça, cette équipe manque d'âme. Et puis, j'ai vu quand même Carrick est arrivé. Non seulement Manchester United n'a pas encaissé, mais surtout, il a mis Sancho.
Ils ont gagné à Villarreal, hein, voilà, 2-0.
2-0. Et avec un Sancho qui était assez bon.
Qui a été acheté très cher et qu'on ne pouvait pas beaucoup utiliser. Voilà. Qu'on n'utilisait pas beaucoup.
Voilà, donc, aujourd'hui, je peux juste dire que ce sera très difficile. Mais quand on sait qu'on a Cristiano Ronaldo, quand on sait qu'on a le meilleur joueur du monde, parce que maintenant, il n'y a plus de doute. Il y a une sorte d'arnaque qui était là depuis des années où on distribuait des ballons d'or à quelqu'un que je ne veux pas dire c'est le frère de l'autre.
Bon,
voilà. Donc, j'ai dit aujourd'hui, quand on a Cristiano Ronaldo, c'est vrai que Manchester United peut tomber, peuvent paraître fragiles, mais avec Cristiano Ronaldo, on peut se dire qu'il peut marquer un but à n'importe quelle heure.
Je vais répéter ce que j'ai déjà dit dans ce plateau, c'est qu'effectivement, avec l'effectif de Manchester United, l'entraîneur quel qu'il soit, que ce soit Solskjaer avant ou que ce soit Carrick contre Villarreal en Espagne, il a 5 changements. Donc, il peut utiliser sa profondeur de banc, ce qu'il ne peut pas faire en Première Ligue. Parce qu'en Première Ligue, il n'a que 3 changements. Mmh. Et donc, ça joue beaucoup, parce que quand on voit l'effectif de Manchester United, effectivement, on se dit qu'il devrait être beaucoup plus haut.
C'est pas ça la raison.
On n'a pas le temps. On y reviendra, parce que je suis désolée, il faut aller à nos cartons. Mais on verra le match, et on verra lundi dans Radio Foot International. Ouais. Allez, session carton.
Carton jaune.
Un carton jaune.
Ouh là là, carton rouge.
Carton rouge
dans la confusion.
Carton vert.
Extraordinaire.
Rien à dire.
La sélection des cartons et des nombreux cartons que vous nous avez envoyés cette semaine encore.
Bonjour Café des Sports, c'est Cadeau du Ciel depuis Bujumbura au Burundi à la radio Rema FM. J'ai un carton vert. Le carton vert est dédié à l'équipe italienne de l'AC Milan qui a fait un match exceptionnel à la Ligue des Champions pour gagner les 3 points qui lui donnent la chance d'être qualifié en 8e de finale lors de la dernière journée de la Ligue des Champions. En tout cas, chapeau pour eux et merci beaucoup.
Bonjour Café des Sports, c'est Steve Coe depuis le Congo Brazzaville. Je donne un carton rouge à Lionel Messi qui n'arrive toujours pas à porter l'équipe du Paris Saint-Germain. Comme dit un proverbe africain, si tu ne sais pas où tu vas, retourne d'où tu viens. Je salue la très jolie dame Annie Gasnier, Rémi N'Golo et le meilleur ami de Cristiano Ronaldo, Xavier Barré. Merci.
Bonjour Radio Foot International, c'est Ousmane Ba depuis Dakar, Sénégal. Carton rouge aux joueurs du PSG qui ont refusé de jouer tout le match et qui ont préféré aussi garer le bus. Carton rouge aussi au trio M&M qui préfère marcher au lieu de jouer pour remporter ce match.
Bonjour Radio Foot, bonjour Rémi N'Golo. Moi c'est Benjamin depuis Kara au Togo. Mon carton est de couleur verte à l'international ivoirien Sébastien Allaire qui vient de battre un record en Ligue des Champions. Déjà en 5 matchs de poule, il est à 9 buts. Félicitations, il est très intelligent dans son déplacement et dans sa lecture de jeu. Merci.
C'est Bakaringay, Dakar au Sénégal. Je voulais donner un carton vert à Carlo Ancelotti. Le mystère qui a un travail extraordinaire avec le Real Madrid. Depuis le début de la saison, je vois qu'on n'en parle pas souvent, mais en tout cas, il fait un travail époustouflant avec cette équipe-là. Bravo au mystère et bon Radio Foot. Merci beaucoup.
Bonjour à toute l'équipe de Radio Foot International. Je suis Kensi Aurelus. Je vous écoute depuis Haïti. Je donne un carton vert à l'équipe de Manchester United pour sa qualification pour les 8e de finale en Ligue des Champions cette semaine.
Bonjour à tous, bonjour Radio Foot International. Je suis Honoré Edem, Togolais vivant en Italie. Alors, je donne un carton vert à l'équipe de Rennes parce que vraiment, cette saison, ils sont vraiment en forme. Troisième de Ligue 1 et surtout premier de leur poule en Conférence Ligue Européenne. J'espère que ça continuera bien comme ça pour eux. Et surtout, je leur souhaite bonne chance pour la suite. Merci.
Bonjour, bonjour RFI, bonjour Radio Foot International. Moi, c'est Tonton Boubé depuis Lomé au Togo. Pour le Café des Sports du jour, je donne un carton vert à M. José Mourinho. José Mourinho qui a tenu parole en offrant une paire de chaussures de 800 € au jeune gagnant Félix Diane pour lui récompenser de son match face aux Génois. J'ai trouvé ça super. J'aime pas l'entraîneur, mais par contre l'homme, c'est un super mec. Bonne émission à vous, Madame Annie Gassiné, et dédicace spéciale à El Refe, Alejandro Valente. Big up à vous, on est ensemble.
Hein, pour une fois, c'est vous, le Refe, c'est pas Rémi, parce qu'en général, c'est Rémi la vedette. Et vous voyez, Rennes a plu aussi à l'un de nos internautes auditeurs. Allez Rémi, quelle est la couleur de votre carton?
Vert. Ah, ce sont... Rouge. Ce sont justement...
Rouge ou vert?
Rouge, c'était une façon de te dribbler. Ah.
J'étais étonné.
Non, ce sont tous les followers de la page Facebook Remingo, non, qui ont décidé de donner ce carton rouge justement à la Confédération africaine de football qui tient une assemblée générale extraordinaire et qui est-ce qu'on invite pour venir corbonner tout cela? C'est bel et bien Infantino avec Arsène Wenger. Et finalement, ils viennent juste lire un communiqué que oui, à partir de maintenant, on va donc accepter, nous, Africains, une Coupe du Monde tous les 2 ans. Et pendant ce temps, la même FIFA nous disait que la CAN, tous les 2 ans, c'était pas bien, fallait plutôt ça, tous les 4 ans. Maintenant, la CAN est presque morte lorsque la FIFA vient organiser la Coupe du Monde là. Donc, aujourd'hui, la Coupe du Monde va passer à 2 ans. Et la CAN, elle va passer à 0-1 parce que nous, on ne peut plus continuer comme ça. Voilà, il y a un proverbe africain qui dit, eh bien, le miel n'est pas bon dans la bouche de l'âne.
Bon, c'est pas encore fait, hein, Rémi.
Mais c'est quand même beaucoup d'expérience.
Oui, oui.
Moi, en revanche, je vais me réjouir de ce qui s'est passé en Afrique ces dernières semaines, ces 10 derniers
jours.
Carton vert aux filles des différents clubs qui ont disputé la première Ligue des Champions féminines. Alors, il n'y avait pas beaucoup de spectateurs. Malheureusement, c'était à huis clos en Égypte. Au début, ça devait avoir lieu au Maroc. Finalement, ça a lieu en Égypte. Mais bon, il y a eu l'équipe sud-africaine des Mamelodi Sundowns qui a gagné. Ils ont battu en finale une équipe ghanéenne. Et cette équipe avec la meilleure buteuse de ce tournoi qui a illuminé la compétition, Evelyne Badou. Alors, on les reverra avec plaisir lors de la prochaine édition, mais c'est un grand progrès pour le football africain féminin.
C'est vrai que c'était un pari, en tout cas, cette compétition. Alejandro.
Un carton vert à la Confédération sud-américaine de football. On a beaucoup parlé d'Amérique du Sud. En fait, elle a décidé de s'aligner sur l'UEFA en annulant l'avantage du but marqué à l'extérieur. Donc, c'est la première confédération qui suit l'UEFA dans cette démarche. Et on peut espérer que d'autres feront de même, car je pense que c'est une très bonne décision.
Le carton de Radio Foot International est aussi un carton vert et nous le donnons, il aurait pu être jaune et noir, nous le donnons à un jeune géant qui est de retour, c'est Erling Haaland. Vous vous en souvenez, il s'était blessé ces derniers temps, le buteur prolifique du Borussia Dortmund. Et dans le groupe, il sera dans le bus, promet son entraîneur du BVB, Marco Rose. Et en vue,
bien sûr, du
classiqueur la semaine prochaine face au Bayern. Il arrive trop tard. La Norvège a été éliminée. Malheureusement, elle n'ira pas au Qatar. Et le Borussia Dortmund est éliminé de la Ligue des Champions. Il a marqué 70 buts en 72 matchs. Et depuis le début de saison, c'était 9 buts en 6 matchs. Bravo, Erling Haaland. C'est la fin de ce Radio Foot International. Merci à tous de nous avoir suivis. Et merci aux 700 000 amis de la page Facebook de l'émission. Merci à tous. Bon week-end. Merci à tous ceux qui nous suivent.